35e de Radio Bac, 9e saison. Notre invité du jour est Ludovic Roux, donc vigneron à Talleyrand, mais également donc président de la CAF coopérative de Talleyrand. Et on va entamer cette deuxième partie, Ludovic Roux, sur cette compétence. Alors, on peut être vigneron, on peut être coopérateur, on n'a pas forcément envie de prendre des responsabilités. Comment est-ce que ça vous est venu à vous?
Alors, en effet, quand je me suis installé vigneron, je n'ai jamais pensé m'occuper à la fois de la CAF coopérative et d'autres sujets comme le syndicat. Par contre, dès le départ, quand j'ai fait le choix d'être coopérateur et donc pas indépendant, j'avais en tête que je ne pourrais pas m'épanouir si je m'impliquais pas dans la vie de la coopérative. C'est-à-dire que pour moi, on est vigneron, je le dis souvent, et pas viticulteur, puisque... Petite parenthèse, le viticulteur, il vend du raisin, et nous, on vend du vin. Alors, que l'on soit coopérateur ou particulier. Et donc, je voulais voir ce qui se passe après que j'ai amené mon raisin, et participer à la vie et aux décisions. Donc, c'est comme ça que je suis rentré auditeur, on appelle ça auditeur au conseil d'administration de la CAF coopérative. Et après, de fil en aiguille, les gens m'ont...
Oui, on est vite pris dans un engrenage, finalement. Oui, voilà. Mais finalement, au début, donc, il y a le métier de vigneron. Et puis là, vous vous lancez dans les responsabilités. Alors là, c'est l'aventure humaine, ça va au-delà.
Tout à fait, oui, c'est même... Au début, ça fait très peur, hein. On va pas se mentir. Moi, mon ancien président avait fait 42 ans à la tête de la coopérative. Remplacer une icône comme ça, c'était quand même assez, il fallait avoir un peu, être un peu peut-être brûlé pour accepter
oui,
ça.
Oui, il vous a servi de mentor, j'imagine.
Mais voilà, il m'avait quand même bien mis en avant, bien aidé, bien accompagné au départ. Et après, c'est une aventure humaine. C'est vrai que c'est la beauté de la coopération. On était déjà beaucoup d'amis de la même génération à s'entraider dans nos vignes. On se retrouvait ensuite aux réunions de la coopérative. On a vécu une très grave crise ensemble, 2004-2008. Donc, aucun d'entre nous n'était président. Nous étions des collègues qui allions aux réunions de la CAV pour trouver des solutions. Quand je dis trouver des solutions, c'est quel vin on va faire pour quel client et donc comment on met en place des stratégies au niveau de la coopérative, qu'est-ce qu'on change au règlement intérieur pour être plus efficace derrière, etc., etc. Et donc, cette aventure humaine fait qu'on s'y épanouit aussi et ça permet dans les périodes de crise de se raccrocher à ça parce que seul, c'est parfois compliqué. Et après, c'est comme tout groupe, à un moment donné, il y a le président qui dit « je vais prendre ma retraite, donc il faut qu'il y ait un successeur ».
Il en faut un.
Et le groupe décide lequel c'est, et donc c'est tombé sur moi comme ça aurait pu tomber sur un autre. Et voilà, mon métier me passionne, et avant tout, c'est d'être vigneron.
Voilà, alors donc, à la fois, comme vous le disiez, Ludovic Roux, c'est l'aventure humaine, mais ça reste une profession. Donc, le président d'une cave, alors chaque coopérateur et le patron dans son entreprise. Mais d'un autre côté, quel est l'apport justement au niveau du conseil peut-être ou de la décision d'un président sur le choix, par exemple, je sais pas, moi, des vins qu'on va produire, comment les choses se passent-elles?
Bon, je vais, du coup, pour répondre à cette question, faire une très rapide explication de ce qu'est une coopérative. Une coopérative, c'est quelque part une association de vignerons qui se mettent ensemble pour produire du vin et le vendre. Les premières coopératives dans le département sont arrivées dans les années 20, 30.
Donc un siècle, elles ont
ont à peu près un siècle, certaines un peu moins, la nôtre n'a pas encore un siècle. On les appelle les filles de misère, puisque c'était une époque dramatique où les gens, mon grand-père me disait, des gens mettaient le vin dans le caniveau pour pouvoir rentrer en nouvelle récolte. Et donc l'idée, c'est que déjà un homme a une voix. Donc ça, c'est très important. Tout coopérateur, qu'il soit gros propriétaire ou petit propriétaire, a une voix.
Oui, donc il y a un exercice démocratique.
Voilà.
Là, qui...
Il y a des parts sociales et toutes les réserves d'une coopérative ne sont plus distribuables. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une réserve, on ne peut plus la distribuer. Donc une coopérative, elle est non délocalisable et elle est transgénérationnelle. C'est-à-dire que l'outil, on ne peut pas le destituer, on ne peut pas le casser. Donc ça, c'est important de le dire. Et donc un homme, une voix. Des capitaux qui sont privés Et donc par contre, tout ça, il faut le faire fonctionner, puisqu'on a besoin de salariés, on a besoin de faire des choix. Et donc, il y a une assemblée générale où tout coopérateur est invité, encore une fois, avec chacun sa voix. Et là, il décide d'élire un conseil d'administration qui, lui, va prendre le pouvoir sur les décisions du quotidien.
C'est lui qui va assumer le quotidien.
C'est lui qui va assumer les stratégies, etc. Et l'AG, elle, une fois par an, vient donner quitus, donc, c'est-à-dire donner l'aval de ce qui a été fait et pour l'année prochaine à son conseil. Voilà, je vais pas faire plus compliqué. Et donc, ce conseil est élu par l'Assemblée générale. Et ce conseil élit son président. Et le président, son rôle, il est d'embaucher un directeur qui, lui, va gérer l'opérationnel tous les jours. Son rôle, c'est d'animer le conseil d'administration, donc créer un ordre du jour, et après, du coup, animer le conseil d'administration. L'idéal, c'est qu'il ait une vision pour essayer de dire, voilà.
Oui, voilà, justement.
Je vous propose.
C'est quand même lui qui tient le volant, quoi, qui voit la route et qui tient le volant, normalement.
En tout cas, il faut qu'il essaie de donner des perspectives. Parce que les membres du conseil d'administration, pour la plupart, sont dans leur vigne toute la journée. Le président, lui, il a un rôle aussi de représentation. Donc, il a une représentation auprès des acheteurs, auprès des institutionnels, etc. Et donc, ça lui permet de voir beaucoup plus de choses. Donc, son rôle, c'est certes d'animer le conseil, d'embaucher le directeur, mais surtout, j'ai envie de dire, de donner une vision et un cap à son conseil, qui lui le valide ou pas. Il peut changer de cap si le conseil le valide pas, évidemment. Donc voilà à quoi sert un président. Et le président est réélu chaque année par ses pairs. Et donc nous ne sommes que des serviteurs, entre guillemets. Voilà. L'entreprise ne nous appartient pas.
Mais là, c'est de nouveau une autre entreprise, puisqu'on disait un vigneron aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Là, c'est une autre entreprise à une autre échelle. Combien de salariés, par exemple, pour cette cave? Alors, on se choisit. Jadis, on disait la cave Copée de tel endroit. Mais aujourd'hui, on se choisit des noms un petit peu plus poétiques.
Tout à fait. Alors nous, c'est la cave Les Terroirs du Vertige. Alors, on a changé de nom suite à différentes fusions. Et on a recherché un nom qui permette à toutes les communes, tous les vignerons de toutes les communes, de se sentir vraiment partie intégrante de la cave.
Oui, combien de communes dans cette cave?
On a plus de 30 communes.
Ah oui, quand même, c'est un vaste terroir.
Oui, on a une coopérative qui a qui géographiquement est un vaste terroir, en effet. En volume, on est malheureusement plutôt moyen, parce qu'on est sur des petits rendements. Donc nous, on est une coopérative, si on prend sur les 5 dernières années, on a fait 48 hectolitres hectares, ce qui en soi est faible
comme rendement.
On est sur des terres arides, enfin, pour ceux qui écoutent, qui sont de l'Aude, ils connaissent un petit peu les corbières, donc il y a de la garrigue, il y a moins d'eau que dans d'autres secteurs, donc c'est un peu plus compliqué de faire des rendements. Donc pour en revenir à la question, donc c'est le terroir du vertige, parce que on voulait avoir cette notion au terroir pour dire que l'on vendait des vins qui viennent d'ici, et vertige, c'est plus un jeu de mots par rapport aux citadelles du vertige,
c'est-à-dire les fameux entre guillemets châteaux cathares.
Voilà, cathares entre guillemets, c'est vrai, mais voilà, en tout cas c'est ces fameux châteaux qui sont sur notre territoire pour la plupart, puisqu'on part, pour faire très simple, de Montserrat en passant bien sûr par Talleyrand et en montant jusqu'à Cucuyang, Paderne, Montgaillard. Voilà, pour faire simple, toute cette vallée, c'est là où on a le plus de vignobles.
Oui, voilà, donc on arrive vraiment sur cette fameuse zone de la croisade des Albigeois, avec l'ancienne frontière avec l'Espagne et le Royaume d'Aragon. Bon, voilà pour l'histoire. Et alors donc, à partir de ce moment-là, on choisit, qu'est-ce que vous faites essentiellement comme type de vin dans les terroirs du vertige?
Alors nous, historiquement, on faisait et on fait toujours une grande majorité de vins rouges. Alors avant c'était très simple, c'était vin de table et corbière, donc l'un ou l'autre. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe, donc on essaie de continuer à faire le maximum de corbière, puisque on tient à cette appellation et on pense que c'est celle qui nous identifie le mieux et qui nous représente le mieux. Ensuite, on fait aussi de la OP Languedoc, puisque c'est quelque chose qui se démocratise, et puis notamment en rosé.
Oui, alors rappelons AOP ce que ça veut dire, c'est un sigle.
Tout à fait. Donc c'est appellation d'origine protégée. Parce qu'avant, c'était appellation d'origine contrôlée.
Voilà, c'était annoncé.
Bon. Au niveau européen, c'est protégé, mais on peut dire les deux
mais
encore.
Mais ça veut dire la même chose,
grosso modo. Ça veut dire exactement la même chose. Ce sont les mêmes signes de qualité. Et donc, en AOP ou AOC, peu importe, on a évolué vers Languedoc et donc vers du rosé. On évolue aujourd'hui de plus en plus vers le blanc, notamment dans nos terroirs d'altitude, parce que ce qui fait la spécificité de notre coopérative, c'est qu'une bonne partie du vignoble est à plus de 110-120 mètres d'altitude.
Oui, d'où la notion de vertige.
Voilà. on peut faire beaucoup de jeux de mots autour de l'altitude, vertige, les terroirs, enfin voilà. Et donc ça
change un peu la donne sur les cépages et le type de vin.
Les types de vins que l'on fait sont basés sur la fraîcheur. Et ça, c'est vrai que c'est une chance parce que actuellement, avec le réchauffement climatique, beaucoup de clients recherchent cette fraîcheur, cette nervosité dans les vins. Et ça, nous, on l'a assez naturellement. Donc, on va de plus en plus vers le blanc. Et ensuite, on a tout un tas d'IGP. Donc ça, c'est indication géographique protégée. Et donc la différence avec les AOP, c'est que les AOP, on met en avant une recette, entre guillemets, une façon de procéder, un terroir. Et dans les IGP, on ne met en avant qu'une zone géographique. Donc vous buvez un IGP, vous savez que ça vient de tel endroit. Il y a un cahier des charges, mais qui est beaucoup plus souple.
Que
l'AOP, et qui permet une plus grande innovation. Et donc là, en IGP, on fait du vin de cépage, Pays d'Oc, du vin de Pays de l'Aude, du Terre du Midi, maintenant en rosé. Et du vin de pays de Cucugnan, puisqu'on a cette chance d'avoir ce vin de pays Cucugnan.
Oui, alors avec un nom là encore prestigieux depuis qu'Alphonse Daudet l'a rendu célèbre dans les lettres de Montmoulin. Mais pensant d'ailleurs, les gens pensent que Cucugnan est en Provence, alors que c'est bien chez vous là-bas.
C'est ça, c'est bien chez nous. Pour l'instant, on n'a pas vendu assez de bouteilles pour que les gens le repèrent bien chez nous, mais ça pourrait, pourquoi pas, être quelque chose qui nous permet de vérifier si on a assez vendu.
Oui. Et alors, vous disiez, Ludovic Roux, que vous faisiez à l'origine beaucoup plus de rouge, mais là, vous l'avez évoqué, on va sur le blanc. Le rosé semble avoir le vent en poupe aussi en ce moment.
Alors, le rosé a eu une progression exceptionnel sur ces 10 dernières années. À aujourd'hui, il y a peut-être un petit tassement, donc il faut qu'on soit très prudent entre l'offre et la demande. Et le blanc, vraiment, continue sa progression au niveau de la consommation. Et alors, on n'a pas le temps, mais tout ceci est lié en grande partie à l'évolution de la consommation du vin. Puisque les gens consomment pas le vin au même moment, ne prennent pas des repas au même moment, de la même façon. Il y a beaucoup plus de gens qui mangent sur le pouce, qui mangent debout, des sandwichs. La forme même du repas assis a changé, plus de poissons, des repas plus légers qu'avant, moins longs. Voilà, bon, tout ça fait que le blanc est en train de s'installer vraiment.
Plus adapté à ce type de régime. Là.
Le blanc et le rosé, mais c'est vrai que le blanc est en train de devenir la couleur à la mode. Et donc blanc, rosé, aujourd'hui, représente la moitié des volumes dans notre région. Notre cave est un peu à part, puisque en effet on progresse en blanc et en rosé, mais on reste encore à plus de 70%, même 80% en rouge. Et donc on essaie d'avoir une spécificité, de faire des rouges de grande qualité sur la fraîcheur. Et notre façon de fonctionner, hein, pour bien comprendre comment fonctionne notre cave, c'est qu'on travaille en vrac, mais pour nous c'est pas péjoratif. Puisque je dis souvent en plaisantant que personne ne boit du vin derrière une citerne, donc il y a toujours quelqu'un qui le met en bouteille. Et donc en fait on cherche des partenariats, et on a des partenariats, avec des gens qui ont leur propre marque. Et donc l'idée c'est que on arrive à faire le vin qui correspond à leurs besoins, et qu'on travaille sur la durée. Voilà, donc on a une quarantaine de clients négociants. Ça peut aller du petit vigneron indépendant à côté de chez nous qui a sa marque, jusqu'au plus gros négociant français, voilà.
C'est-à-dire que le négociant, d'emblée, il sait à peu près le type de vin qu'il va avoir.
Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, hier, mon directeur m'a appelé, il a rencontré un client avec qui il s'est déjà engagé pour la prochaine récolte.
Voilà, c'est ce que vous appelez donc du vrac, mais personnalisé en quelque sorte.
Moi, j'appelle ça vrac cousumain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien qui est fait au hasard chez nous. Donc, on discute avec les clients avant les vendanges, bien avant. D'ailleurs, on discute toute l'année avec nos clients. et on s'adapte aux besoins. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en contact direct avec les marchés. Mmh. Et donc les marchés qui, en plus, géographiquement, sont mondiaux maintenant.
Oui.
Donc
oui,
il faut savoir en temps réel que veulent les Chinois, que veulent les Suédois, que veulent les Américains. Enfin, pour avoir trois exemples. Et donc, avec nos clients, on a des contacts réguliers et avant vendange, on définit le profil par rapport à un marché.
Un tout dernier chiffre avant la pause, Ludovic Roux. Vous savez la part d'export pour votre cave?
Alors, vu notre fonctionnement, c'est très difficile à quantifier.
Oui, justement.
Puisque nos clients vendent dans tous les réseaux. Mais nous, en direct export, on vend à peu près 10%. Mais je pense que nos clients vendent 30 ou 40%
à l'export.
Donc on peut considérer que une petite moitié, un peu moins de la moitié de nos vins partent à l'export.
Ça va hors frontières.
Voilà. Mmh. Et sur l'autre moitié, il y a 10 ou 20% de cette moitié qui va en CHR, donc café, hôtel, restaurant.
Et le reste,
40%, on va dire, ou 30%, non, à la grande distribution.
À la grande distribution.
Voilà, on a des partenariats avec des grandes distributions par rapport à des vins.
On marque une seconde pause, Ludovic Roux, et on se retrouve pour une troisième partie où on évoquera encore certaines de vos responsabilités.